Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Ah, le fameux palmarès des urgences qu'on voit, et honnêtement, c'est pas encourageant quand on regarde le portrait de la situation. Il y a la chronique santé avec Émilie Pelletier-Grenier, journaliste et future infirmière. On revient sur ce fameux palmarès. Et Émilie, ben, tu te questionnes, à quoi ça sert réellement de dresser cette liste-là?
Ben, c'est un petit peu y répondre, mais on va juste regarder le palmarès parce qu'il est quand même intéressant, même s'il nous dit pas grand chose. Juste pour les gens qui sont curieux, là, qui ne l'auraient pas vu passer, le palmarès, c'est le palmarès des urgences, puis ça se trouve notamment sur le site web de la presse. Mais en gros, on a les urgences des 84 hôpitaux québécois en leur attribuant une petite note en fonction de critères précis.
Émilie, je m'excuse, mais on a des petits problèmes de son avec toi. On va tenter de te rejoindre d'une autre façon parce que pour que l'écoute se fasse de manière un peu plus agréable, parce qu'on perd quelques mots, puis c'est important parce que c'est une question importante. C'est une question cruciale qui nous touche, l'état du système de santé, puis... Moi, je regarde ça, le taux d'occupation dans les urgences. C'est toujours très élevé, on voit ça, 100, 125%, des fois du 200%. Mais dites-vous une affaire. Le taux d'occupation comme ça, c'est sur civière. Mais avant d'arriver sur la civière, t'attends aussi dans la salle d'attente. Et c'est une espèce de traversée du désert. Je pense qu'on a rétabli la communication avec Émilie. Tu m'entends bien?
Ben oui, super bien.
Ah, moi aussi, maintenant. Oui. Je te donne une note, vu qu'on était dans les notes, là, maintenant, 10 sur 10 pour le son.
Mais non, mais ce que je dis, c'est un peu puéril là, de penser qu'on classe les hôpitaux avec une note de A à E, là, mais les critères sont quand même rigoureux. Il y en a 5, en gros, là, comme tu parlais, la durée moyenne du séjour, séjour de 48 heures ou plus, patient de 75 ans ou plus, hospitalisation, patient ambulatoire. Fait que c'est 5 critères, 84 hôpitaux. La moyenne au Québec, c'est C+. Bon, OK, on le sait, ça va pas super bien. Puis là, quand on regarde la liste, on est tenté de dire, oui, le pire, c'est, par exemple, le General Hospital à Montréal. Moi, j'étais quand même surprise de voir ça. Les meilleurs hôpitaux au Québec, ce sont pour la plupart des hôpitaux régionaux, comme par exemple Rimouski. Puis dans les derniers jours, un peu partout dans les médias locaux, ben on s'est un peu servi de cet outil-là pour tirer la sonnette d'alarme puis dire, ben écoutez, ici, notamment, en Outaouais, ça va vraiment mal. Puis ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'en Outaouais, ça va tellement mal. Moi, j'ai un biais parce que c'est ma région d'origine, mais on va dire que c'est le 15e palmarès de la presse. Ça fait environ donc 15 ans qu'on le fait, grosso modo, parce que j'ai l'impression que durant la pandémie, on l'a pas vraiment fait, là, mais j'ai un souvenir clair de type de nouvelles quand j'étais ado où on disait qu'on avait plus de chances de mourir en se présentant à l'urgence de l'hôpital de Hull, mon hôpital de naissance, que dans d'autres urgences au Québec.
Mais t'as raison. Moi, j'ai travaillé en Outaouais, moi, il y a à peu près 10 ans de ça. Et c'était ça, les manchettes, là.
Ben, c'est constamment.
Il y a un hôpital, c'est une catastrophe, ça va mal. C'est encore le cas aujourd'hui, visiblement.
Exactement. Oui, l'hôpital de Hull obtient des moins, puis avec une durée moyenne de séjour de 26 heures et des poussières. La durée moyenne de séjour, c'est du moment où on arrive à l'hôpital et au moment où on en ressort. Fait que c'est pas juste 26 heures passées sur la petite chaise en plastique à attendre le médecin. Là, c'est 26 heures à attendre, voir le médecin et peut-être repartir, à moins qu'on soit hospitalisé. Puis ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Le pourcentage d'hospitalisation, c'est donc le pourcentage des gens qui se présentent à l'urgence et qui sont hospitalisés. Donc, on pense qu'environ 30 % par exemple, des gens qui se présentent à l'urgence sont hospitalisés, donc avaient une raison sérieuse de se présenter à l'urgence. Et on a envie de penser que ça veut dire que le reste, 70 % sont probablement allés à l'urgence avec une raison mineure de se présenter là. Mais bon, les chiffres ne le confirment pas. Mais donc, c'est intéressant de regarder ça, mais c'est un long préambule pour dire, OK, c'est chouette, c'est un outil médiatique puissant pour juste, encore une fois, répéter un message qu'on redit sans cesse, mais c'est tout le temps la même affaire. Puis, pourquoi on le fait alors? OK, le constat, c'est quoi? Les urgences sont engorgées. En Outaouais, la situation, elle est terrible, entre autres à cause du manque de personnel, parce que, comme tu le disais, tu la connais, cette région-là, tout le monde, oui, tous les travailleurs, traversent du côté d'Ottawa parce qu'on est tellement mieux payés en Ontario. Bon, on manque aussi, mettons, de technologues en imagerie. Si personne n'est là pour opérer une machine de scan, il n'y en a pas de scan. Puis une urgence, ça ne peut pas fonctionner sans scan. Même dans SAS, c'est un levier scénaristique super puissant. Ça fait de très, très bons épisodes de ça. Mais à cette île, c'est différent un petit peu. Là. C'est catastrophique aussi, mais entre autres parce qu'on manque de pharmaciens. Bon, point intéressant, les gens ne le savent pas, mais les médecins à l'hôpital prescrivent quelque chose. Et c'est un peu comme quand on sort nous-mêmes de chez le médecin. On a besoin d'aller chez Jean Coutu faire préparer notre prescription. À l'hôpital, c'est pareil. C'est validé par un pharmacien. Bon, fait. Oui, on a accès à des médicaments genre du Tylenol puis de l'insuline pour les diabétiques, mais on a quand même besoin de pharmaciens. Donc, si on n'a pas de pharmacien, l'hôpital ne peut pas rouler. Donc, face à ces résultats-là, qui proviennent d'ailleurs du ministère de la Santé, la presse n'a pas mené une grande enquête pour aller fouiller ces chiffres-là. Là. C'est fourni à même le ministère de la Santé. Ben, le ministre Christian Dubé dit « Oui, j'avoue, ce n'est pas exactement satisfaisant. Ben, » ce qui n'est pas satisfaisant, moi, je trouve, c'est que on dépense de l'argent des fonds publics pour que des fonctionnaires provinciaux amassent des données comme ça pour nous confirmer année après année quelque chose qu'on sait et qu'on vit au quotidien. Ce qui m'agace, c'est que le gouvernement veut que les centres hospitaliers se serrent constamment la ceinture, fassent des économies de bout de chandelle. Je t'assure, Alexandre, là, dans tous les hôpitaux où je suis passée dans ma très, très jeune carrière, il ne s'écoule pas une journée sans qu'on parle d'argent, de budget.
Je crois.
Tous les jours. Puis, c'est pas pour chialer dans le vide que les gens qui travaillent dans le milieu disent on nous demande toujours de faire plus avec moins. Un exemple très banal, économiser du matériel. Les infirmières, on a tendance à amasser plein d'affaires quand on rentre dans la chambre de notre patient parce qu'on veut économiser des pas, etc., et économiser du temps, mais c'est du matériel et ça coûte cher. Donc, nous, les employeurs, nous disent les filles, économisez du matériel, non pas pour la planète et parce que vous gaspillez du plastique, mais parce que ça coûte super cher. Puis, c'est dans ce même contexte-là que le gouvernement s'est pas gêné pour abolir 100 postes d'infirmières auxiliaires ou préposées récemment, sous prétexte qu'on n'avait pas réellement besoin de ces gens-là, puis que finalement, c'est parce qu'on en avait besoin durant la pandémie. Et pourtant, ces gens-là permettaient à peine de garder des équipes à flot, là, à peine. On en avait besoin de ces gens-là. Fait que, moi, je ne comprends pas, en fait, qu'on nous demande toujours de faire plus avec moins et qu'on se satisfasse, année après année, de juste mettre au grand jour ces chiffres-là. C'est comme si, avec notre système de santé, je ne sais pas comment dire, quand on a des gens autour de nous là qui ont des problèmes, je ne veux pas dire des problèmes de santé mentale ou, par exemple, de consommation, mais des problèmes du quotidien qui sont très prenants, et pour qui on a des solutions concrètes. On répète des solutions à ces gens-là autour de nous, puis on devient un peu frustré hein, d'avoir un proche qui a de la difficulté, mais à qui on propose de l'aide, qui reste toujours un peu pris dans son bourbier. Mais moi, le système de santé, ça me donne un peu cette impression-là. Il y a des solutions concrètes. Il y a des gens là, qui ont des cerveaux fonctionnels, qui proposent une résolution partielle, du moins, de ce problème-là. Mais on demeure pris là-dedans. Puis la seule réponse, c'est effectivement, ce n'est pas un bilan satisfaisant. Mais pour le client, pour le patient, je dis client parce qu'on a quand même une approche relativement clientéliste là, dans notre système, pour le payeur de taxes, mais ce n'est pas satisfaisant de se retrouver à devoir attendre 26 heures pour accéder à un médecin puis ressortir de l'urgence. Ce n'est pas satisfaisant.
Non, c'est pas satisfaisant, certain. Puis le réseau de la santé obtient une énorme part du budget année après année. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a pas particulièrement de l'amélioration ni dans les temps d'attente, ni aussi pour, par exemple, la liste d'attente pour les chirurgies. Là. Tu vois un peu l'état de situation. Oui, ça peut. Il y a des chirurgies, il y a du rattrapage qui est fait, mais il y en a tellement qui attendent qu'à un moment donné, ça vient qu'on n'est pas capable de se rattraper. Puis il y a toujours l'éternel question, mais on peut pas ajouter des médecins à l'urgence. Si on voit là que c'est des heures d'attente, mais on peut pas en rajouter. Est-ce qu'on oblige tous les médecins à faire une présence à l'urgence actuellement? Je pense pas, moi.
Ben, en tout cas, on ne va pas se cacher non plus que les médecins coûtent cher, là, parce que contrairement à bien d'autres professionnels de la santé, ils sont payés à l'acte. Hein, fait que, bon, ils en posent beaucoup d'actes dans une journée. Puis c'est sûr que chaque médecin est comme une petite PDG à lui-même, là. Fait que c'est comme gérer plein d'entreprises, là, gérer les médecins. Puis je comprends que c'est complexe, c'est une grosse machine. Et c'est aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Mais bon, du point de vue là, de la petite payeuse de taxes que je suis et travailleuse de la santé, ça m'échappe. Puis c'est sûr que l'envie est forte de dire, voilà, c'est une grosse machine, hein, Emily, c'est un gros bateau à faire bouger. Puis si on nous le dit aussi au quotidien, quand on pose la question, mais voyons, c'est quoi le problème? Nous, du haut de notre dette ou de notre bac, on se dit, me semble que je ferais telle chose différemment, me semble que je ferais telle chose différemment. Qu'est-ce qui se passe?
La question est lancée. Merci beaucoup, Émilie.
OK, on se donne quoi pour cet échange-là? Des plus?
Ah oh, oui, hey, mais ah, oh, ah, oh, ah, oh, ben oh, oui, ah bon. Oh, oui.
Super. Parce que je veux bien vivre mon week-end comme ça.
Bye.
Une autre vision de l'actualité.